podcast de Radio Vatican.
En Afrique du Sud, la contestation contre le président Jacob Zuma grandit. L'opposition appelait à une nouvelle manifestation ce mercredi, après la mobilisation de 60 000 personnes vendredi dernier dans tout le pays. Ce qui a aggravé le mécontentement des Sud-Africains, c'est la décision de Jacob Zuma de remanier le gouvernement, qui a été annoncée peu après minuit, entre le 30 et le 31 mars. Un remaniement qui a entraîné le départ du ministre des Finances, Pravin Gordhan, le gardien du Trésor, en conflit ouvert depuis plusieurs mois avec le président sud-africain, englué dans des affaires de corruption. Depuis, les prises de position contre Zuma se multiplient dans son propre parti, l'ANC, et jusqu'au sommet du pouvoir. Son vice-président a dénoncé le remaniement ministériel et le trésorier général du parti a appelé à sa démission. L'opposition a, elle, déposé une motion de censure au Parlement qui serait examinée le 18 avril prochain. Marianne Sévrin est politologue et chercheuse associée sur l'Afrique du Sud au laboratoire des Afriques dans le monde de Sciences Po Bordeaux. Elle revient sur ces divisions.
Ce remaniement a bien aggravé ces divisions, mais il faut remonter très loin parce qu'en fait, les divisions qu'on observe maintenant ne sont que les conséquences de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans. Donc en 2007, il y a eu des élections du parti, il y a eu une lutte fratricide entre l'ex-président Thabo Mbeki, si on se souvient bien, et l'actuel Jacob Zuma. Et une majeure partie des partisans de Jacob Zuma étaient contre Thabo Mbeki. Or, il y a une minorité qui avait expliqué que si Jacob Zuma arrivait au pouvoir, l'Afrique du Sud serait plutôt vers une pente descendante et il s'avère que 10 ans après, on se rend compte qu'il n'avait pas si tort que ça. Quand vous observez l'histoire du parti à partir de 2007, vous vous rendez compte qu'il y a une reformation de stratégie politique et d'alliance. Les mêmes qui ont soutenu le président Zuma en 2007, aujourd'hui disent ouvertement qu'ils regrettent de l'avoir soutenu et finalement d'avoir poussé le président Thabo Mbeki à la démission en septembre 2008. Et il est évident que le renvoi de l'ancien ministre des Finances, Pravin Gordhan, accentue les choses, augmente les choses, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas pour une transformation totale de l'économie et sociale de l'Afrique du Sud que Jacob Zuma a renvoyé ce ministre, quand même considéré comme compétent, c'est surtout pour faire plaisir, entre guillemets, à une certaine famille dont il est extrêmement proche.
Alors si les anciens soutiens de Zuma en 2007 disent maintenant regretter, qui sont les nouveaux soutiens de Jacob Zuma?
Alors les nouveaux soutiens de Jacob Zuma sont pour la plupart d'entre eux, on va dire, originaires de la province du KwaZulu-Natal, qui est quand même la base de Jacob Zuma. C'est également la Ligue des Jeunes de l'ANC. Alors cette Ligue des Jeunes a l'habitude, en règle générale, de faire sa loi, ou plutôt on parle d'une ligne qui est la faiseuse de roi. Donc si vous avez son soutien, en règle générale vous vous retrouvez à être président de l'ANC et après de l'Afrique du Sud. Si vous n'avez pas son soutien, vous vous retrouvez à l'écart. Et c'est ce qui s'est passé pour le président Thabo Mbeki, qui a eu pendant une période le soutien de la Ligue des Jeunes et qui, en 2007, a perdu ce soutien. Et je ne sais pas si vous vous souvenez d'un certain Julius Malema. Eh bien, en 2007, Julius Malema était à la tête de cette Ligue des Jeunes et était l'acteur de l'accession au pouvoir de Jacob Zuma, mais également du renvoi de Thabo Mbeki. Et aujourd'hui, ce Julius Malema est dans l'opposition et demande un vote de mention de censure contre Jacob Zuma. Et vous avez aussi le syndicat majoritaire qu'on appelle le COSATU en Afrique du Sud, qui avait soutenu Jacob Zuma en disant qu'il représentait les pauvres, qu'il allait mener une politique beaucoup plus à gauche, contrairement à la politique menée par l'ex-président Thabo Mbeki. Et aujourd'hui, l'ancien secrétaire général du COSATU nous explique qu'il regrette, parce que Jacob Zuma n'est autre qu'un corrompu et, entre guillemets, qu'il vend l'Afrique du Sud à cette famille indienne dont on parle sans arrêt. Et ce qui est assez particulier, c'est que le trésorier général même de l'ANC, ainsi que le vice-président de l'ANC, qui n'est autre que Cyril Ramaphosa, qui est le vice-président du pays, vous explique que que Jacob Zuma est aussi en train de vendre le pays à une clique de kleptomanes qui sont là pour s'enrichir et non pas qui sont là pour finalement pour le bien de tous et notamment des plus vulnérables en Afrique du Sud.
Les oppositions sont donc au sein de l'ANC, dans la coalition aussi au pouvoir. Quelles sont leurs possibilités ?
Le problème, c'est que toutes ces personnes qui demandent à ce que Jacob Zuma parte du pouvoir pensent sans doute qu'il va faire exactement ce que son prédécesseur avait fait en 2008. Mais Jacob Zuma n'est pas dans cette option. Parce que lui, moi je le soupçonne de finalement faire traîner les choses en longueur, parce qu'en décembre, il y aura les élections lors de la conférence nationale de l'ANC, donc un changement normalement de direction. Et devinez qui il soutient ? Son ex-épouse. Alors, il ne soutient pas Nokazama de la Mini Zuma parce que c'est son ex-épouse. Hein, faut pas, cette dame a des compétences. Mais il la soutient en se disant que de toute façon, si elle est élue à la tête de l'ANC, c'est pour ça qu'il dit très souvent que l'Afrique du Sud est extrêmement prête à avoir une femme à sa tête, ainsi que, accessoirement, l'ANC, ça pourrait lui garantir de ne pas se retrouver en prison après 2019. Parce que si Ramaphosa qui se retrouve à la tête de l'ANC et par la suite, donc 2 ans plus tard, à la tête du pays, je peux vous assurer que Jacob Zuma risquerait de se retrouver en prison parce que, côté corruption, il a vraiment de gros bagages. Alors, en ce moment, vous avez un contexte politique quelque peu instable, une société civile qui joue son rôle, parce que ça, c'est quelque chose de positif, l'opposition qui joue également son rôle. Le souci, c'est qu'au sein de l'ANC, vous avez des gens qui sont contre Jacob Zuma et qui aimeraient bien le voir partir. L'opposition appelle ses membres, notamment les parlementaires de l'ANC, à voter la motion de censure. Mais comme la présidente de l'Assemblée nationale a décidé que ça sera un vote non secret, alors je signale qu'elle-même est proche de Jacob Zuma, donc forcément, la motion de censure ne sera pas votée par les parlementaires de l'ANC et ça doit faire la 3e ou la 4e fois qu'on va arriver au même résultat. Il y a un certain malaise à la direction de l'ANC. Ce parti se retrouve à la croisée des chemins. Faire partie de Jacob Zuma et gagner les élections prochaines ou alors le garder, mais en sachant que là aussi, ce parti majoritaire se met grandement en danger pour les élections générales et pour les élections provinciales de 2019.
Pour revenir sur la conférence nationale de l'ANC qui sera en décembre, comment va se décider la nouvelle direction ?
Il y a tout un processus qui va se mettre en place parce que si je me souviens bien, on consulte les branches locales, après on consulte les branches provinciales et après en décembre, vous avez une grande conférence. Bon, alors, selon ce qu'on m'a dit, en règle générale, on sait d'avance qui va être le président. Mais alors là, comme on est totalement dans le flou, il y a les partisans de Zuma, il y a les partisans de Cyril Ramaphosa, il y aurait les partisans de Nokazama, de la Mini Zuma, qui n'est autre que l'ancienne présidente de la commission de l'Union africaine. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'ex-épouse de Jacob Zuma, mais vous avez une autre personne, c'est une autre femme, c'est la ministre actuelle du logement qui pourrait finalement se lancer dans la course. Là, je vais vous dire, autant où les autres années, je sais vous dire à l'avance qui pourrait être à la tête de l'ANC, là, je parlerai au conditionnel, mais avec beaucoup de guillemets, avec beaucoup, en faisant vraiment beaucoup attention. Normalement, ça devrait être Cyril Ramaphosa, mais vu comment les choses fonctionne, bouge en ce moment, je suis obligée de vous dire qu'il faut observer la campagne. Ce que je peux affirmer à l'heure actuelle, c'est que la campagne pour ces élections au sein du parti va être très rude.
Le trésorier général de l'ANC a pris ses distances avec Jacob Zuma, on l'a vu. Comment le président sud-africain peut gouverner et gouverne sans l'appui de personnes qui ont, sur le papier en tout cas, de hautes responsabilités ?
Il ne les écoute plus du tout au point qu'aujourd'hui, on dit au sein de l'ANC que le parti n'est plus le centre du pouvoir. Parce qu'avant, c'était le parti qui conseillait le président sur la politique à tenir. Or, lorsque vous regardez les choses de près, vous vous rendez compte que finalement, le parti est juste là pour avoir son rôle de parti avec les membres, etc., etc. Et le président décide tout seul. Normalement, l'ANC, c'est un leadership collectif. Or là, j'ai envie de vous dire que Jacob Zuma s'est un peu comporté comme un véritable dictateur. À chaque fois qu'il s'est adressé à la direction de l'ANC, on lui a dit non en ce qui concerne le renvoi de Pravin Gordhan. Et en plus, n'oubliez pas qu'il y avait les agences de notation, dès qu'on parlait de démission, la bourse chutait, donc le rang chutait, les agences de notation commençaient à être fébriles. Et comme par hasard, il y a quelques jours, Jacob Zuma, alors qu'il n'avait pas eu l'aval de la direction de l'ANC, à minuit, moi j'ai jamais vu ça de ma vie, un président ou un premier ministre qui fait son changement de gouvernement à minuit. Donc en gros, pendant que tout le monde dort, voilà, comme si on ne se serait aperçu de rien. Et c'est ce qui est dénoncé au sein de la direction de l'ANC.
Des propos recueillis par Sarah Bakaloglou.